VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est midi à Conakry, 13h à Libreville. Bienvenue à notre journal. Au Burundi, les manifestations contre un troisième mandat pour le président Pierre Nkurunziza ont repris aujourd'hui à Bujumbura, après une trêve de l'opposition pendant le week-end, pour donner au chef de l'État le temps de changer d'avis. Un appel resté sans réponse, selon l'AFP. En RCA, ouverture aujourd'hui à Bangui du Forum de réconciliation nationale. Le point avec notre correspondant sur place, Thierry Mboma, au micro de Timothée Donangmaï.
Tout est sympa pour ce forum que les Centrafricains attendaient depuis longtemps. Dialogue qui mènera à la réconciliation. Toutefois, les Centrafricains regrettent l'absence des deux anciens présidents, François Bozizé et Michel Djotodia, qui, selon eux, devaient vraiment dire aux Centrafricains comment on en est arrivé à ce niveau.
Quel est le sentiment du côté des milices anti-Balaka et des ex-Séléka?
Avant ce dialogue, nous avons évolué de revendication en revendication. La Séléka qui exigeait plus de place qu'on ne lui a donné, tandis que les anti-Balaka exigeaient quant à eux la libération de leurs pères qui sont détenus en ce moment à la maison d'arrêt centrale de Ngaragba. Mais toutefois, on va quand même aller à ce dialogue.
Notre correspondant Thierry Mboma à Bangui. Au Mali, une quinzaine de militaires et de nombreux assaillants tués dans les affrontements entre les rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, et les forces gouvernementales dans le nord du pays. Et ce, malgré les appels au calme des populations et de la communauté internationale. La recrudescence des combats date de l'attaque des éléments de la plateforme pro-gouvernementale Gatia contre les rebelles du MNLA à Menaka, près de la frontière du Niger. Des précisions avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Tout a commencé le lundi 27 avril dernier à Menaka, quand les éléments de la plateforme ont chassé les hommes du MLLA qui contrôlaient cette ville depuis mai 2014. Cela suite aux événements de Kidal. Malgré la prise de la ville par les éléments de la plateforme, les combats se poursuivaient. Baja Ag Amatou, député de Menaka.
Les opérations sont là-bas. Il est vrai qu'il y a des petits accrochages, des affrontements. Et ce qui est sûr, c'est que les éléments de la plateforme sont à Menaka. Les drapeaux du Mali sont déjà montés partout. Menaka est sous la protection des éléments de la plateforme.
Au cours de leur meeting au stade Omnisport Modibo Keita de Bamako, les leaders de la plateforme de la société civile malienne ont lancé des appels aux membres de la CMA. Mahmoud Diko, président du Haut Conseil islamique du Mali.
Nos frères du MNLA, nos frères du Haut Conseil de l'Azawa, nos frères du mouvement arabe de l'Azawa. Assez, assez. Le peuple malien a assez souffert. Il y a eu assez de misère. Je crois qu'il faut avoir pitié de nos enfants qui sont dans cette situation de misère pour enfin revenir à la raison.
Les travailleurs du Mali ont placé la fête du 1er mai sous le signe de la paix et de la réconciliation. C'est pourquoi l'UNTM propose la tenue très rapide d'une grande concertation nationale. Yacouba Katilé, secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Mali.
Nous nous battons pour la paix, nous battons pour la sécurité. Au moment venu, ce qui a lieu de dire par rapport à des correctifs à apporter sur certains aspects, nous allons faire venir vraiment notre apport pour aller au travail, il faut qu'il y ait la paix. Et pour demander quelque chose à l'employeur, il faut qu'il y ait la paix. Et s'il n'y a pas de paix, on oublie tout ça. Donc nous voulons qu'il y ait la paix et cette paix conditionnée vraiment à la cessation des hostilités.
L'ancien premier ministre du Mali pense que c'est un groupe d'individus armés qui est manipulé par certaines puissances internationales. D'où son appel à l'union sacrée autour du Mali. Mohamed Hamed Agamani.
C'est l'union sacrée, je dis bien l'union sacrée, des patriotes maliens, des vrais, pas des gens qui ont leurs pieds ici, ils ont leurs pieds ailleurs. Pas des gens qui sont ici et qui bombardent le Mali demain. Ça suffit. Il n'y a pas de Touareg, il n'y a pas de Bambara, il n'y a pas de Peul, il y a le citoyen malien.
En tout cas, malgré les appels des autorités maliennes, ceux de la communauté internationale, les localités maliennes continuent d'être attaquées par des rebelles. La dernière est Diréye, où ils ont enlevé un agent de la police et emporté deux pick-up. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Togo, le président fort Niasingbe est officiellement réélu. Des détails avec notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
Ce lundi 4 mai, le président élu fort Niasingbe prête serment devant la Cour constitutionnelle pour le tome 3 de son odyssée présidentielle. La Cour a confirmé hier sa victoire à 58,67% des suffrages exprimés devant son challenger Jean-Pierre Fabre, qui se voit crédité de 35,19% des voix. L'audience de la Cour constitutionnelle tenue ce 3 mai ne nous engage aucunement, a déclaré Pascal Adoko, porte-parole de Jean-Pierre Fabre. Fort Niasingbe rempile ainsi pour un troisième mandat, alors que Jean-Pierre Fabre dit avoir gagné l'élection avec 52,20% des voix, compilé dans 26 commissions électorales locales indépendantes CELI, sur les 42 que compte le Togo. C'est pour la première fois sous la présidence de Fort Niasingbe que les résultats d'une élection présidentielle n'ont pas suscité de contestation dans les rues, dans les heures qui ont suivi sa proclamation. Kayi Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Législative au Bénin, le FCB du président Yayi Boni arrive largement en tête avec 33 députés, mais n'obtient pas la majorité absolue du Parlement de 83 sièges. C'est ce qui ressort de la proclamation des résultats des législatives du mois dernier par la Cour constitutionnelle dimanche.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Kenya. Consultation aujourd'hui entre les hauts responsables kenyans, dont le président Uhuru Kenyatta et le secrétaire d'État américain John Kerry en visite dans le pays. Au programme, les questions de sécurité et le développement économique. M. Kerry a appelé à l'unité dans la lutte contre le terrorisme. Actualité aux États-Unis, levée du couvre-feu à Baltimore dans l'État du Maryland par le maire Stephanie Rawlings-Blake, maintenant que le calme y est revenu. Des précisions avec Timothée Donangmaï.
Madame Rawlings-Blake a expliqué qu'elle ne tenait pas à ce que la mesure reste en place plus longtemps que nécessaire. Ma principale priorité dans l'imposition du couvre-feu était de préserver la paix, la sécurité, la santé et le bien-être des habitants de Baltimore, a-t-elle déclaré. Peu après l'annonce de Madame Rawlings-Blake hier, le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, a dit de son côté que certains des 4000 membres de la Garde nationale et policiers déployés à Baltimore ont amorcé leur retrait. Toutefois, l'état d'urgence restera en place jusqu'au retrait total de ses forces, a-t-il précisé.
En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou reçoit aujourd'hui les représentants des Israéliens d'origine éthiopienne après une violente manifestation des Falachas, les Juifs originaires d'Éthiopie, brutalement réprimés dimanche soir à Tel Aviv par la police. Michel Joseph nous en dit plus.
Les manifestants dénonçaient ce qu'ils considèrent comme un racisme anti-noir de la part des forces de l'ordre après la diffusion d'une vidéo montrant des policiers bousculant puis frappant à coups de poing un soldat d'origine éthiopienne dénommé Damas Pakada. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui a lancé un appel au calme, doit rencontrer dans la journée le soldat et des représentants de la communauté juive d'origine éthiopienne. Toutes les revendications seront étudiées, mais la violence et de tels troubles n'ont pas leur place, dit-il, dans un communiqué. Les policiers israéliens ont chargé à cheval et fait usage de grenades lacrymogènes dimanche soir, tandis qu'ils essuyaient des jets de pierres et de bouteilles. Selon Reuters, les autorités ont fait état d'une cinquantaine de policiers et de 12 manifestants blessés, ainsi que de 43 interpellations. Les Falachas, qui sont 135 500 sur 8 millions d'Israéliens, se plaignent depuis longtemps d'être victimes de discrimination et de racisme. Jeudi dernier, une première manifestation survenue suite à la diffusion de la vidéo montrant les policiers brutalisant l'officier israélien d'origine éthiopienne avait déjà dégénéré. La police a eu recours à des canons à eau pour empêcher les manifestants de s'approcher de la résidence du Premier ministre. Il y a eu une dizaine de blessés. Les autorités ont promis des sanctions contre les agresseurs de Damas Pakada. Deux policiers ont été suspendus. Des dizaines de milliers de Juifs éthiopiens ont été amenés en Israël dans les années 1980 et 1990 grâce à des ponts aériens.
Et pour terminer, la tragédie des migrants en Méditerranée, Frontex, l'agence européenne chargée de la surveillance extérieure de l'espace Schengen, annonce aujourd'hui avoir intensifié ses opérations en Méditerranée, où plus de 8500 candidats à l'immigration en Europe ont été secourus et 10 retrouvés morts noyés pendant le week-end. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com et bien sûr également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info.